le balado Faire la forêt met en valeur le patrimoine immatériel charlevoisien. Il présente la diversité du patrimoine forestier de la région. Dans chacun des 8 épisodes, nous allons à la rencontre d'un porteur ou d'une porteuse de tradition dont les savoir-faire sont bien ancrés dans le territoire. Suivez nos discussions avec ces monuments du patrimoine immatériel. Ce matin, on s'en va rencontrer un homme assez connu de la région de Charlevoix, Jean-Yves Bellé. Poète, conteur, chanteur, journaliste, enseignant, il nous reçoit chez lui dans la Côte-Bellevue. Protecteur du patrimoine, Jean-Yves Bellé a rencontré beaucoup de porteuses et de porteurs de traditions de sa région afin de recueillir leurs témoignages. Il nous raconte aujourd'hui l'histoire de deux personnages importants de la forêt charlevoisienne. Il ravive ainsi la mémoire d'Arthur Savard, un impressionnant bûcheron de la Malbaie, avec qui il a été ami, ainsi que celle de Félix-Antoine Savard, l'auteur de Meneau, maître draveur, un incontournable de la littérature québécoise. Mais d'abord, c'est de lui qu'il nous parle.
Donc, j'ai eu une enfance, c'est un peu comme tous les enfants de l'époque, dans un village qui était extrêmement populaire, Pointe-aux-Pics, okay, qui accueillait des milliers de touristes pendant l'été. La plupart de ces touristes-là venaient de partout, particulièrement des Américains. Okay? Et on était envahis l'été par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis nous autres, on était les personnes, nos ancêtres, papa, maman, tout ça. On était les gens qui servaient ces gens-là. Tu sais, on avait des petites jobines qui payaient pas beaucoup. Okay? Alors, on était pauvres aux côtés de gens qui avaient beaucoup d'argent. Il y avait même au manoir des employés qui venaient de l'extérieur parce qu'on engageait peu de gens d'ici parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais. Donc, ça commence par ça. Ma jeunesse, ça ressemble à ça. Moi, à force de voir mes parents en arracher comme ça, là, puis avoir tant de misère avec le peu qu'ils avaient, on n'a jamais manqué de rien. Parce que ma mère était une femme extraordinaire, puis mon père, qui souvent n'avait pas d'emploi, il était tailleur de pierre, mais on ne taillait pas la pierre pendant l'hiver. Il semblait des planchers, puis on ne semblait pas des planchers à l'année, de temps en temps. Alors, il y a eu toujours un peu ce manque d'emploi permanent qui fait qu'on n'a jamais eu une continuité financière. Non, on était toujours en temps de survie, tout le temps, quand j'étais jeune. Fait que moi, ayant vu tout ça, là, j'ai dit, il faut que j'aille à l'école, puis aller à l'extérieur. Puis, au secondaire, j'avais rencontré un psychologue qui était venu nous rencontrer, puis qui m'avait dit, Jean-Yves, tu pourrais aller dans deux domaines. Tu serais un bon vendeur ou tu ferais un bon prof. Ça m'avait frappé beaucoup. Fait que je dis, tiens, d'accord, je m'inscris à l'Université Laval, puis je m'inscris à l'Académie de Québec qui venait à peine d'ouvrir ses portes. J'avais pas de réponse à l'Université Laval, mais je voyais arriver le mois de septembre, puis j'avais pas eu de réponse encore non plus de l'Académie, qui s'appelle aujourd'hui le Cégep Sainte-Foy. Mais j'ai dit, non, ça restera pas comme ça, j'y vais. Puis là, je me vois là devant le responsable, puis je veux entrer en pédagogie, puis je me défends. Je l'écoute, il me parle, lui, de livres, de grands romanciers, puis tout ça, puis il me demande si je connais tout ce monde-là. Ben non. Tout ce que je connaissais, c'était Félix Leclerc. Je lui ai parlé pendant une heure de Félix Leclerc. Mais ça n'a pas fait l'affaire. À l'Université Laval, j'ai pas été accepté. Fait que là, je suis retourné après ça à l'Académie. J'arrive à l'Académie. Avec mon sac, toujours, je rentre, je rencontre le responsable du dossier, puis je lui dis, j'ai pas de nouvelles, puis moi, je veux aller à l'école. J'en parle aujourd'hui, puis je suis encore un peu bouleversé, parce que c'était un moment crucial dans ma vie. Je rencontre, donc, il me dit, oui, je vais regarder. Il regarde dans sa première pile qu'il y avait déjà des gens choisis. Il finit par trouver mon dossier, il le met devant ses yeux. Il dit, d'où tu viens? J'ai dit, je viens de Charlevoix. Il dit, tu viens de Charlevoix? J'ai dit, oui. Il regarde mon dossier. Il dit, nous autres, là, il dit, les élèves de Charlevoix qu'on a ici à notre école, là, il dit, c'est les élèves qu'on préfère. Parce qu'il dit, ils ont une bonne éducation, et puis c'est des travailleurs. Il dit, attends-moi une demi-heure. Cette demi-heure-là était la demi-heure la plus longue de ma vie. Chaque seconde représentait une journée. Là. Il arrive, il s'installe. Il dit, écoute, on va t'accepter, mais il dit un mot au lieu de problème. Il dit, il n'y a presque plus de place. Dans la classe, il dit, il n'y a pas une... Ben, je dis, c'est pas grave, ça. Laissez la porte ouverte, puis installez-moi un bureau à la porte. Moi, ça va faire mon affaire pareil. Ah ben, il dit, dans ce cas-là, c'est correct, t'es accepté. Oh, Seigneur! La joie que j'ai ressentie là était inexplicable.
T'es pas connu quand tu trimes. Arthur Savard le sait bien. Ses mitaines et puis ses bottines, il se levait de bon matin. Dans les chemins tout couverts de branches, son petit siotte puis son corps est de l'or. Il partait des friches chez la France.
Puis ensuite, il fallait que je paie, comme tous les étudiants qui rentrent, les livres. Il fallait que j'aie une chambre au pavillon La Salle. Mais j'avais quelque chose qui m'a sauvé la vie. J'avais commencé déjà à 17 ans, faire des chansons. Puis j'avais déjà quelques chansons de fait, dont Les bateaux blancs étaient faits, puis j'en avais quelques autres, là. Puis là, j'ai représenté l'Académie de Québec au Palais Montcalm dans ce qu'on a appelé dans le temps les variétés étudiantes. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, c'était l'époque des boîtes à chansons. Alors, je m'en vais pour représenter l'Académie. Imagine-toi que je gagne le concours. Oh là là, je venais d'avoir un bon coup de pied dans le cul. J'étais content parce que ça m'a donné d'autres contrats. Puis avec ça, j'ai pu payer mes livres, pu payer ma nourriture, pu payer ma chambre. Puis...
Tire-lame, 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 tire-lame.
En 65, j'ai mon premier contrat. J'enseigne à la commission scolaire Laure Conin ici, à la Malbaie. En sixième année... J'ai enseigné là pendant 32 ans et j'avais créé une pédagogie un peu particulière. Moi, j'appelais ça une classe coopérative. Mais en réalité, c'était une classe un peu révolutionnaire pour l'époque. Et je faisais des choses avec mes enfants, des projets tout le temps des projets. On avait offert aux professeurs, tu sais, d'avoir des imprimeries Frenet. Une imprimerie Frenet, si tu vas au musée, ils vont t'en montrer parce que j'en ai fait mettre là pour les conserver en souvenir. Là. J'en avais 12 dans ma classe. J'avais des limographes, des linographes, des presses, en fait, tout le kit. Ma classe, c'était un vrai bordel. Tant que les ordinateurs sont pas arrivés, ça fonctionnait dans ma classe. On produisait des journaux de classe. Puis j'avais ensuite un paquet de beaux journaux de classe que j'ai cédé au musée. C'est tout au musée, ça. Mes imprimeries sont au musée. Les enfants aimaient tellement ça que quand les enfants, au début de l'année, on faisait des groupes puis qui n'étaient pas dans ma classe, ils pleuraient. Parce que c'était alléchant, c'était le fun. Puis moi, j'étais un fou des arts, OK? Alors, j'avais organisé, je ramassais, je cumulais mes heures. Puis à la fin de l'étape, on en avait 3 ou 4, dépendant des années, on faisait 3 jours d'art plastique. Tu sais, il y avait des grandes armoires, il y avait du fil de laiton, il y avait de la peinture, de la gouache, il y avait toute ma classe. Je te dis, c'était un vrai bordel.
T'es pas connu quand tu draves, Arthur Savard le sait bien. À sauter dessus les barrages, à rouler avec les rondins. La pitonnette à la rivière, les tocsons lavent les chaudrons. Le meneau dont on est si fier, c'est Savard le saluant. Tire l'âme, tire, tire l'âme, tire l'âme.
Pendant qu'il enseigne, Jean-Yves Bellé réalise aussi une émission à la télé communautaire qui s'appelle « Pour prendre l'accoutumance ». C'est en nous racontant des souvenirs de cette époque qu'il nous fait découvrir Arthur et Joséphine Savard.
Arthur Savard, c'était comme un Joe Monferrand charlevoisien. La première émission que j'ai faite à la télé communautaire, c'était avec lui et sa compagne Joséphine, qui était, m'a dit en affaire, c'était toute une femme. Elle, là, avait pas peur d'un homme. Puis elle avait ses idées, puis elle était bien bonne en politique, puis c'était dans le temps de Duplessis, puis elle avait une moyenne gueule, comme on dit, OK? Et tout le monde disait, ah, il est pas parleux, Arthur, il est pas parleux. Puis moi, quand j'arrivais, il me parlait tout le temps, même que Joséphine, il s'est fâché contre sa femme devant moi pendant que je faisais l'émission, parce qu'elle trouvait qu'il parlait trop. Puis il m'a parlé pendant toute l'émission d'une heure. Lui, un homme très fort, pas très grand de taille, mais fort comme un bœuf, comme on dit ici, puis... C'est elle qui menait. C'est elle qui menait. Toi, tu travailles, moi, j'élève les enfants. Si tu travailles, tu t'en vas dans le bois. Alors, Arthur, lui, c'était un bûcheron, puis il allait dans le bois. Du matin jusqu'au soir, il travaillait comme un fou. Avec un siotte, hein? Un siotte et une hache. Pas de scie mécanique, là. On parle pas de scie mécanique. Godan d'or aussi. Mais lui, il travaillait tout seul. Puis il bûchait, en moyenne, quand on avait fini... On avait bûché peut-être pendant l'automne jusqu'au printemps, jusqu'au dégel, parce qu'après ça, c'était la drave, puis on bûchait plus après ça. Mais tant et aussi longtemps que la neige pouvait porter un homme, comme lui disait, quand la neige est capable de me porter, je continue à bûcher. Alors lui, il bûchait là, en moyenne, quand on avait calculé la quantité de bois qu'il avait coupé aux ciottes et avec sa hache pour débrancher les arbres, il bûchait entre 4 à 5 cordes de bois par jour. Par jour! Ça, là, si c'est pas un exploit, moi, là, j'ai eu une terre. J'ai bûché avec une scie mécanique. Puis quand j'arrivais à faire une corde et demie avec ma scie mécanique, j'étais fier de moi, puis j'étais costaud, j'étais capable de le faire. Lui, il faisait ça sans scie mécanique, avec un ciotte puis une hache. Quand il rentrait dans le bois, lui, il faisait que ça. Il travaillait, il allait pas dîner, il portait ça dans une boîte de métal dans son dos. Il y avait de la farine, puis il mettait ses œufs dans la farine, puis un morceau de lard salé enveloppé dans du coton fromage, il mettait le couvercle, il mettait ça, il partait. Le matin tôt, il allait bûcher, faire sa journée, faire sa run, comme on disait dans ce temps-là, parce qu'il y avait beaucoup de termes en anglais, là, dans le temps. C'était toutes des compagnies anglaises qui géraient ça, là. Encore le même problème, hein? Toujours le petit qui travaille fort, qui est peu payé, puis le gros qui profite de ça, les compagnies forestières, ils ont fait des fortunes avec ça, puis ils en jouissent encore aujourd'hui. Mais ces gens-là, ils travaillent pour rien, là. Ensuite, comme il travaillait très fort, les épinettes, il y a de la gomme d'épinettes, OK? À force de transporter les épinettes, ses pantalons, là, étaient tellement pleins de colle que ça devenait étanche à la pluie. Sur sa tête, quand il pleuvait, il y avait une poche de farine. Il se mettait une poche de farine, il rentrait les deux pointus, il se mettait ça sur la tête, OK? Puis il continuait à travailler même s'il pleuvait. Mais quand il avait les mains gommées, il se passait ça après sa chose, puis elle devenait étanche avec le temps. Alors, c'était des monstres de personnes. Ça n'avait pas de bon sens de vivre dans des conditions comme ça. Mais il le faisait du matin jusqu'au soir. Oui, c'est lui, Arthur.
Ah, bon, voilà.
Oui, c'est lui, Arthur. Puis ça, c'est ses parents. Salut, Arthur. Garde le bras, puis garde la main déformée. Son pouce, là, il a tellement tiré, puis poussé, que son pouce, là, il était de loin. Regarde comment est-ce que son pouce était... était où il était rendu à force de tirer gars, ça m'a plu, il y avait 83 ans.
Hey, hey, Joe, ne laisse pas tomber ton poing, mais reviens-y quand t'es pas loin.
Un de ses petits-fils, il était tellement fier de, que j'ai fait ça pour son grand-père, qu'il m'a fait une belle sculpture de la tête de son grand-papa. La famille m'aimait beaucoup parce que j'avais parlé de leur grand-père. Puis pour eux, leur grand-père, peut-être qu'ils pensaient que c'était pas grand-chose, là, mais ils se sont aperçus que c'était un des plus petits des grands. OK? J'aime beaucoup dire ça, hein, des plus petits des grands. Des gens, normalement, dont on ne parlera jamais. Mais ce sont eux qui ont fait le pays. Calif. Puis on n'en parle pas. L'inquiétude que j'ai, c'est qu'il faut que les jeunes s'intéressent à ça. Moi, quand on m'invitait pour aller dans les écoles, je leur parlais de Laure Conant. Je leur parlais de Laure Gaudreau. Je leur parlais d'Arthur Savard. Je leur parlais des bateaux blancs. Je leur parlais d'Alexis Trotteur. Ouais. Chacune de mes chansons est représentative. J'en ai une qui dit « Si nous sommes ce que nous sommes, c'est que vous êtes ce que vous êtes. » Ça dit un peu mon intérêt que j'ai face aux gens d'ici, mais aussi face à la protection qu'on doit apporter à notre territoire. Il y en a un autre qui s'appelle « Hey Joe ». Tu sais, c'est l'histoire des Québécois, des Charlevoisiens qui, pour gagner leur vie, il faut qu'ils partent en ville. Depuis que je suis haut comme ça, il y a toujours eu 30 000 personnes dans Charlevoix. La population a toujours été stable. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on s'est saigné de nos jeunes. Nos jeunes ont quitté. C'est pour ça qu'on est si fiers quand on voit arriver des jeunes dans Charlevoix. C'est comme si c'était nos enfants qui reviennent. Un étrange, c'est quelqu'un qui arrive d'ailleurs, OK? Puis dont on n'a pas l'habitude de voir, de rencontrer. On trouve ça étrange, mais c'est pas un étranger. C'est pas quelqu'un qu'on considère ne faisant pas partie de nous. C'est quelqu'un qui arrive dans nos vies puis qui est différent de nous.
Hey, hey, Joe, ne laisse pas tomber ton poing, mais reviens-y quand t'es pas loin. Hey, 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 Joe, ne laisse pas tomber ton poing, mais reviens-y quand t'es pas loin.
Un autre personnage important du décor charlevoisien est nécessairement Félix-Antoine Savard. C'est aussi quelqu'un que Jean-Yves Bellé a eu la chance de rencontrer.
Une première fois, c'était à l'école Marguerite-Jouville, à la Malbaie. C'est que je l'ai rencontré là parce que les Dufour, la famille Dufour, ceux qui avaient des poulaillers ici, avaient organisé une fête pour lui dans la grande salle de l'école. Il y avait 800 personnes. Ils lui ont rendu hommage. Puis moi, ils m'avaient invité pour chanter. Après, quand l'hommage a été rendu, il avait fait un texte de toute beauté. De toute beauté, qu'il a intitulé « Salut à Charlevoix ». Il passe tous les villages, puis donne pour chacun des villages sa personnalité, un petit peu son histoire. Il fait le tour des noms des montagnes qu'on a ici, le nom des rangs, Cacré, Pissec, Blagousse, Snigol. Et ça finit plus, il y en a. C'est tellement beau, c'est de la poésie à mes oreilles, tout ça.
Et Jean-Yves Bellé nous a remis une version de ce texte afin que nous puissions vous en lire un extrait. Terre de beauté, terre de vérité, terre de conscience, Charlevoix aux trois pays. Et par-devant et majestueusement, Charlevoix du grand fleuve, de cette route, du destin où passèrent les paisibles voiliers de nos ancêtres, et plus tard, les frégates canonnières anglaises. Il m'en souvient, gronde parfois le fleuve. Charlevoix aux trois pays, aux terres de beauté, de paix, terre de conscience et de liberté. Je t'aime et te salue.
C'est des mots souvent qui viennent du langage parlé de l'époque. Chiguerre, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? Chiguerre. Pissec. Blagousse, ça vient du terme anglais d'une maison qui avait aux éboulements dans la Grande Côte, qui était noircie par le soleil et la pluie avec le temps. Les propriétaires avaient marqué en anglais « Black » House. Mais les gens de la place qui parlaient français et qui ne comprenaient pas l'anglais, eux autres, ils traduisaient ça blagousse. Snigol, d'où ça vient? Est-ce que ça vient d'un terme amérindien? Parce qu'il y en avait ici des échanges avec les gens de Pointe-aux-Pics. Ils venaient faire du troc au quai de Pointe-aux-Pics dans l'ancien temps. Ils venaient faire du troc. Ils venaient vendre des petits chapeaux de paille. Ils venaient faire des canots devant les Américains, les touristes. Sur place, là. Ils venaient faire ça sur place. Félix-Antoine Savard, c'est un curé qui est parti de Chicoutimi fâché. Il est parti fâché parce que c'était à l'époque de Maria Chapdelaine. Le monde était pauvre. Puis il trouvait ça terrible. Puis il cherchait une cure. Alors on l'a nommé comme vicaire ici à la Malbaie. OK, dans les années 30, là. Chose comme ça. Peut-être avant, mais... Ensuite, à cette époque-là, Clermont n'existait pas. Clermont faisait partie de la Malbaie. Mais Pointe-aux-Pics existait. OK? Mais tout ça, c'était la Malbaie avant. Mais clairement, à un moment donné, la population a augmenté. Puis là, ils ont demandé à l'archevêché de créer une paroisse. Puis le prêtre qui est allé là, ils ont demandé à Félix-Antoine Savard de venir les aider. Alors, il est allé, ils ont fondé la paroisse de Clermont. Puis c'est lui, Félix-Antoine Savard, qui est fondateur de la ville de Clermont. Félix-Antoine, c'était vraiment un amant de la nature. Mais surtout un peintre en mots. Il peignait en mots la beauté du paysage de Charlevoix. Puis il aimait Charlevoix pas à peu près, là. Puis il y avait des amis qui l'amenaient dans le bois. Puis il allait des fois avec les bûcherons. Puis il connaissait bien ce monde-là. Tu sais, il accompagnait, il était curé. Puis des fois, dans les chantiers, il avait besoin d'un curé pour aller confesser à Trois-Semaines. Pour aller confesser les pauvres bûcherons qui sacraient à journée longue à mourir de travailler. Regarde, dans le roman de Maria Chapdelaine, ici, on ne sait pas qui c'était Maria Chapdelaine. Hein? Le lien entre les deux est correct, parce que je suis certain, moi, que Félix-Antoine n'a jamais nommé son Menot. Il l'appelait Menot. C'était son surnom. Mais est-ce que c'est vraiment Joseph Bouin? Probablement que oui. Puis rien de mieux que de laisser un héros un peu mystérieux aussi. Là. Dans Menot, Félix-Antoine fait dire à son personnage principal, « Ils sont venus, ils ont tout pris. Ils ont tout pris, tout l'argent. Mais nous sommes restés. »
Puis est-ce qu'on en a encore des jeunes porteurs de tradition? Comment vous voyez ça pour l'avenir?
Bien, il y a des jeunes qui s'en viennent bien, là. Parce que moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça, beaucoup, là. Plus qu'il y a quelques années, là.
C'est en reconnaissant le plus petit des grands qu'on écrit des chansons et qu'on a des frissons. L'on reprend ce mâle,
Avez-vous reconnu la voix de Jean-Yves Bellé dans son interprétation originale de Small Pet? Nous avons aussi pu l'entendre dans sa pièce Arthur Savard et dans sa pièce Hey Joe, toutes deux enregistrées sur l'album Pour faire tendresse. Faire la forêt est une production des municipalités régionales de Comté, de Charlevoix et de Charlevoix-Est, réalisée par Artefacts Urbains et financée par le gouvernement du Québec et les MRC dans le cadre de leur entente de développement culturel respective.